Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Minkinbox.net, Cyclon.net et StarWars-Holonet.com.
So what I told you was true, from a certain point of view.
Everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here now. Thank you.
Avertissement. Ce podcast contient du contenu qui peut influencer votre expérience des futures productions de l'univers Star Wars.
I'm not afraid.
L'écoute de cette émission est laissée à votre entière discrétion.
Evacuate? In our moment of triumph?
I'm going to regret this.
Look, don't worry. Everything's going to be fine. Trust me.
If what you've told me is true, you will have gained my trust.
I wonder if your feelings on this matter are clear.
For your own good, stay out of this affair.
Now you will experience the full power of the dark side.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Star Wars en direct, édition spoiler numéro 10. Dans cette émission, nous vous donnerons des détails supplémentaires sur le début de The Force Awakens, la description de nouveaux dessins de production, plus de détails sur le rôle de Rey, Luke, Finn, Poe Dameron et Max Mansido, des révélations sur des super armes, quelques conseils vestimentaires pour vos futurs cosplays et des informations capitales sur le récit du film sur fond de tombeau ancestral Sith. Bonjour à tous et à toutes, je suis Hervé Coiral et vous êtes également en compagnie de Henri Leventhal. Salut Henri.
Salut.
Et de Thomas Coulon. Salut Thomas.
Salut.
Vous allez bien?
Ça va.
Très bien.
Ça va. Bon, on se retrouve
moins en moins nombreux, mais
on se retrouve depuis un moment parce que ça date de décembre, le dernier spoiler, mais bon.
Effectivement.
Voilà.
Il y a pas mal de choses intéressantes.
Oui, oui. Mais là, on a.
Il était temps.
Voilà. Là, on commence à avoir des spoilers qui commencent à devenir très très importants et qui nous révèlent pas mal de choses. Avant de nous lancer dans l'émission, sachez que si vous écoutez pour la première fois notre émission, vous pouvez retrouver toutes les autres émissions de Star Wars en direct sur starwars.direct. Donc notez bien cette nouvelle adresse, l'ancienne fonctionne très bien encore, hein, bien sûr, mais c'est une nouvelle adresse pour Star Wars en direct, donc starwars.direct, notez-le bien, c'est tout nouveau. Et donc, je vous invite à télécharger toutes les autres émissions en vous abonnant sur notre compte iTunes ou en vous abonnant à notre flux RSS afin de recevoir les dernières émissions dès leur mise en ligne. Voilà, sans les manquer. Nous allons passer maintenant à la rubrique Hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Je vous rappelle, s'il est nécessaire, que nous allons révéler donc des détails, comme on disait au début de l'émission, qui pourraient vraiment modifier votre expérience de Star Wars The Force Awakens en salle. Donc, si vous fuyez absolument les spoilers sur ce film, donc vous écoutez pas la bonne émission, et je vous conseille d'aller donc écouter les autres émissions de Star Wars en direct. Puis je vous conseille surtout de nous quitter tout de suite, sinon ça sera irréversible pour vous. Voilà, si c'est bon, si vous nous avez quittés, vous nous entendez plus, et puis ceux qui sont restés nous écoutent encore, donc on va continuer, on va commencer avec une première news, avec plus de détails sur le début du film, avec Henri. Henri, je te laisse la parole.
Oui, donc effectivement, on avait déjà eu des informations par rapport à ce début de film il y a quelques mois déjà, mais effectivement, on a eu de nouveaux détails donc sur ce début, donc à voir... exactement comment ça va être dans le film, et donc les nouvelles informations sont les suivantes. Alors, selon la source d'origine, Rey ne serait pas le vrai nom du personnage joué par Daisy Ridley. Donc c'est une information qui arrive de plus en plus. D'ailleurs, on se souviendra que ce serait en fait seulement un alias qu'elle n'utiliserait qu'au début de l'histoire. Et ouais. On pouvait se souvenir que d'ailleurs c'est le nom qu'on lui avait donné pendant très longtemps, c'est le nom de Kira, et ce nom apparaissait d'ailleurs sur une caravane appartenant soi-disant à l'actrice lors du tournage dans la forêt de Dean. On voyait vraiment toutes ces très nombreuses caravanes dans un champ, et effectivement, il y avait en dessous du nom de production AFCO, qui est un des codes secrets des codes plus tellement secrets de l'épisode 7, et donc il y avait effectivement ce nom-là, et c'est pour ça que pendant très longtemps, on appelait le personnage joué par Daisy Ridley Kira, avant qu'il soit révélé étant Rey. Bon.
Oui.
Ensuite, le fameux nouveau petit droïde BB-8 n'appartiendrait pas à Rey, mais au personnage de Poe Dameron, donc qui est incarné dans le film par Oscar Isaac, le pilote de X-Wing qu'on voit dans le teaser. Et donc voilà, les parties juteuses arrivent, La source rapporte également que Poe serait capturé très tôt dans le film après avoir confronté quelqu'un surnommé JK, donc soi-disant pour Jedi Killer. Donc, est-ce que ça pourrait être un Inquisiteur Sith? Est-ce que c'est le Kylo Ren? Ou tout simplement le commandant Stormtrooper qui est censé être joué par Gwendoline Christie? Ensuite, au tout début du film, Poe Dameron, accompagné de son droïde BB-8, se trouverait dans une falaise, sur une falaise surplombant une ville, un peu comme Obi-Wan Kenobi regardait Mos Eisley dans Le Nouvel Espoir. Et donc il est en train d'observer un campement en train d'être incendié. Là, par contre, on retrouve ces fameuses rumeurs des fameux incendiaires.
Des Stormtroopers incendiaires.
Voilà. Ouais. Et donc ça correspondrait au débarquement aussi qu'on voit dans le teaser. Mm-hmm. Et donc Dameron envoie BB-8 en ville, un peu comme nous le voyons dans le teaser justement aussi. Mm-hmm. Toujours. Et on peut facilement se dire que les 90% des scènes qu'on voit dans cette première bande-annonce proviennent du début du film d'ailleurs.
Ouais.
Et donc Dameron affronte ensuite JK lors d'un duel. Il est capturé et est emmené au bord d'un Star Destroyer situé en orbite. Et donc s'il est capturé, il doit ensuite s'enfuir. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Finn, donc le personnage joué par John Boyega. Finn se trouve à bord de la Maison au Miroir, donc ce serait peut-être le nom de ce fameux Star Destroyer.
Ouais.
Il se présente à Poe en entrant dans sa cellule, un peu comme Luke apparaissait à Leia. Et les deux hommes fomentent alors leur échappatoire. Comme Finn ne sait pas voler, il a besoin de Poe pour piloter le chasseur T d'élite, peint en noir et rouge, qui va ensuite s'écraser dans le désert. Et donc la source pense que c'est ce que nous voyons justement Finn s'extirper du crash au tout début de la première bande-annonce. C'est à ce moment qu'il rencontrait. Les trois vont former une équipe et Finn adore le sabre laser qu'elle possède. Il lui dit qu'il veut changer de camp et Poe la convainc que c'est un bon gars. Poe a besoin de retrouver les rebelles et c'est ainsi qu'ils vont récupérer son X-Wing dans une décharge et qu'il va partir loin de la planète. Et quelle que soit cette fameuse planète, qui est probablement Tatooine, mais on sait toujours pas, il y avait certaines rumeurs qui disaient que ça ne serait pas le cas, des gens qui ont dit que dans le teaser, le dernier plan, ils ne comprenaient qu'un seul soleil, donc il y a encore des doutes. Donc je pense que peut-être qu'on ne saura pas avant la sortie du film.
Oui.
Mais en tout cas, il s'agit probablement de la même planète de celle où on va retrouver Rey. Le trio se retrouve et c'est de cette façon que Rey entre en possession de BB-8. Donc peut-être pour lui aider à accomplir sa mission dans le futur et que Poe n'en a plus besoin pour le moment. Donc un peu comme on pourrait dire que R2 appartenait à Obi-Wan à une époque avant de passer à Luke et tout ça suivant les moments où avec qui il accompagne dans les films.
Ouais, on est très similaire hein, quand même voilà, avec l'ancienne trilogie. Il y a beaucoup de ressemblances quand même. Hein. Il y a beaucoup de relations qui sont très proches de ce qu'on a pu vivre dans la trilogie classique.
Et donc la source d'origine, pour terminer, rajoute que Poe va rejoindre les rebelles, tandis que Finn et Rey vont retrouver Han et Chewbacca, et c'est comme ça que l'aventure continue.
Voilà. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs Poe Dameron a l'air si mal en point dans le teaser, dans son X-Wing, s'il s'est écrasé avant sur Tatooine.
Ou alors lors de ce combat avec le fameux JK.
Impossible. Ensuite, on a eu des informations, même des révélations de nouveaux dessins conceptuels qui sont apparus sur la toile. Thomas, oui. Pour toi.
Eh ben, on va partir donc sur ces fameuses, fameuse photo concept, hein, finalement. Ouais. On en a principalement trois dessins conceptuels qui sont là. Enfin, je dis photo parce que c'est vrai qu'elles sont quand même assez bien dessinées. On va jusqu'à reconnaître le visuel des personnages. On commence par la première photo où on voit les fameux les Stormtroopers incendiaires, hein, c'est-à-dire des Stormtroopers avec des lance-flammes. Après le Stormtrooper de la neige, le Stormtrooper pilote, ben là on a le Stormtrooper qui fait du feu. C'est un peu comme les Pokémon, si vous voulez. Donc c'est assez génial. On voit vraiment bien dans ces concepts, on voit vraiment bien l'ambiance. Donc la première photo, elle est très noire, hein, et ça rassure un peu sur l'ambiance de, enfin le premier concept art, pardon. Ça rassure sur l'ambiance qu'on va avoir dans ce Star Wars 7, c'est-à-dire qu'on a des tons assez sombres et du orange et rouge, des couleurs un peu chaudes, un peu violentes, qui montrent que, enfin. qui font penser à une certaine maturité en tout cas.
Tout à fait, ouais.
Donc c'est intéressant. Par contre, la grosse question, en plus, on voit un plan de l'arrière, donc ça veut dire que je pense que les plans qu'on va avoir vont être assez intéressants aussi. Et par contre, la grosse intrigue, c'est qu'on a Dark Vador sur ce dessin conceptuel. A priori, donc, ce serait peut-être juste une comme on est dans le concept, hein, peut-être qu'à l'époque ils avaient pas vraiment défini le méchant, enfin la tronche qu'il aurait, et que du coup ils se sont dit bah tiens, on va mettre Dark Vador pour montrer un peu l'ambiance qu'on attendrait, quoi, enfin essayer de positionner l'histoire, le truc, mais par contre bon, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis Dark Vador ne reviendra pas, hein.
Je pense pas, mais c'est vrai qu'il y a eu des concept art qui sont montrés également, le casque de ce qui pourrait être celui de Kylo Ren, et qui est très ressemblant en forme à celui de Darth Vader, et je me demande s'il y aurait pas une relation comme ça de maître à élève, enfin d'élève qui ferait de Darth Vador un peu un gourou, un maître du mal, quoi, et puis qui en ferait une référence. Enfin, je dis ça comme ça, mais bon.
Et même j'avais pensé, je m'étais dit, si jamais il y avait par exemple un autre personnage qui voulait se déguiser en Dark Vador, reprendre son costume, je trouve que ce serait bidon. Et j'espère sincèrement que on n'aura pas de gueule de Dark Vador, ni qu'on en parlera pas trop, quoi, ou qu'on en parlera comme une référence d'un site, ou je sais pas, ou d'un référence Jedi qui est revenu sur le côté lumineux au dernier moment. Ou comme l'élu, mais surtout qu'il soit pas mis trop devant, quoi, qu'on le réutilise pas trop, comme dans certains comics où on en abuse, quoi. C'est bon, on l'a flingué, maintenant on avance, quoi.
Ouais. Non, mais comme tu l'as dit, normalement c'était effectivement parce qu'ils avaient pas encore finalisé le costume du méchant, ils ont dû prendre justement une référence pour montrer ce personnage-là. Faut pas aller plus loin, c'est vraiment faut vraiment pas s'attendre à retrouver.
Je ne sais pas si vous avez vu ce concept du casque. De toute façon, il y a une photo qui est apparue avec ce fameux sabre laser à garde, avec la garde, et on voyait bien le casque qui était rayé jaune au-dessus des yeux. Ce casque-là est apparu sur le net avec sans la capuche, et on voit clairement la forme du casque de Darth Vader. Bien que la face n'ait absolument rien à voir, la forme dans l'ombre ressemble étrangement à celui de Darth Vader.
Ouais, mais qu'il y ait des références, mais surtout pas qu'on nous le ressorte pas. Comme des comics que j'avais détesté, c'est ceux où on ressuscitait l'empereur au moins 15 fois, quoi. C'est bon, il est mort, quoi. On va pas revenir 15 fois dessus, quoi.
Ouais, ouais.
Faut qu'on avance, quoi. Parce que sinon, on va vraiment à l'impression que c'est tiré par les cheveux, que c'est réchauffé. Il y a que chez Marvel où on se permet, ou chez DC où on ressuscite les méchants et les héros, quoi. Là, c'est bon, quoi. On est dans un truc un peu plus réaliste, ou dans Dragon Ball Z, quoi. Mais ils ont justifié le truc, quoi. C'est fait pour. Il y a des boules de cristal. Là, on est dans Star Wars, quoi. On est dans le truc le plus réaliste en termes de fantasy science-fiction.
Ouais, ouais.
Deuxième photo qu'on a, on a ce fameux personnage, on pourrait dire un peu âgé, joué par Max von Sydow, donc dont on ne sait toujours pas assurément, s'il jouera plutôt un méchant ou plutôt un gentil, quoi. On voit pas grand chose. Il est un peu dans cette ambiance. On voit un peu du, enfin, c'est très sombre et c'est orangé rouge, un petit peu, d'ailleurs comme du feu. Alors est-ce que justement, ce serait pas son village qui serait en train d'être mis à sac par l'Empire à cause du feu, par exemple? Je dis que ça pourrait être une possibilité.
Ouais.
Et bon, il a l'air assez désespéré, quoi, ce brave monsieur. Du coup, moi, j'ai envie de dire que c'est un gentil. Il a une toque, on dirait presque une toque de Jedi.
Ouais. On reviendra. On a eu un peu plus d'informations sur son personnage. On en reviendra un peu plus tard sur les détails.
Donc, du coup, il nous fait un peu de peine. Et bon, moi, par contre, très difficile de dire avec exactitude ce qu'il en est réellement, quoi.
Et après, en fait, on voit le personnage joué par donc Max von Sydow, et puis on n'en apprend pas plus. Hein. Même le décor autour de lui n'est pas très parlant.
Et puis le tout dernier qu'on ait, il s'agit de nouveaux encore vaisseaux, donc qui ont été a priori surnommés Tri-Fighter. Pourquoi, je sais pas trop. Difficile à dire. Moi, j'aurais envie de dire parce que si on n'a pas le visuel sous les yeux. Je dirais que moi, ça m'a fait penser à un mix entre un X-Wing et un TIE Fighter.
C'est ça, avec un arrière de A-Fighter. A-Wing, pardon.
Voilà, ouais, c'est un, voilà, c'est un mélange de, d'un peu tout ce qu'on a. Ce qui est rassurant, c'est qu'on est toujours bien dans l'esprit. Moi, la seule contrainte que je me pose dans le fait d'avoir des nouveaux vaisseaux, je suis pas contre. D'ailleurs, il en faut, parce qu'il s'est passé quand même 30 ans. Il faut que les vaisseaux soient dans le style de la trilogie, en les faisant évoluer un peu. Et là, on est dans le, et là, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on retrouve le même style. Il faut qu'il y ait une continuité, quoi, je trouve, on pourrait dire dans l'architecture des vaisseaux. Et pour moi, elle y est là. Donc je trouve que c'est correct. Et je vais pas vous détailler le truc parce que en radio, je trouverais ça chiant de raconter le détail du vaisseau. Mais voilà, ce que je garde en tête, c'est que voilà, ils sont bien dans l'esprit des anciens.
Ouais. J'en profite de ta remarque pour te dire qu'il y aura sûrement une version rehaussée de cette émission, donc en vidéo avec les images. Donc vous aurez le lien sur starwars.direct pour voir exactement les images dont on parle actuellement.
C'est la version Director's Cut.
Voilà, c'est ça.
Ensuite, on continue. Alors, on a un autre dessin conceptuel qui a dû apparaître plus tard, c'est ça, non, je crois.
Oui, c'est un peu plus tard. Ouais.
Et en fait, et pour faire simple, je dirais que on dirait un TIE Bomber, quoi, en gros. Mm-hmm. Hein, c'est ça. Mais il est rouge, quoi. Non, c'est un mélange, je dirais. Un mélange entre un TIE Bomber et le vaisseau de Dark Vador. Et le TIE de Vador, je dirais.
Ouais. Et puis, il comprend aussi des réacteurs, un petit peu comme un X-Wing. Donc, là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment, ils se sont amusés, hein, les concept artistes de tenter tous les mélanges possibles, toutes les fusions possibles de l'univers Star Wars pour créer des nouveaux vaisseaux.
Ouais, non, et puis c'est très réussi. On voit qu'on est toujours, et c'est encore une fois cette contrainte de respecter le style des anciens vaisseaux, elle est respectée, donc je trouve que c'est vraiment nickel. Bon, la seule question que je me pose encore une fois quand je vois un TIE Bomber, c'est, je me dis, bah, comment est-ce que le truc s'équilibre, parce que on a à côté, à gauche, on a une énorme cabine, et à droite, quasiment rien. Donc tu te dis que pour s'équilibrer en l'air, ben ça doit quand même pencher d'un côté, quoi. C'est comme si t'avais un avion et que t'avais tous les passagers d'un côté et de l'autre rien.
Ah ben là, je pense que c'est plutôt une vision de l'artiste, le fait qu'en fait on le voit du côté, justement on est plus sur le côté qu'autre chose.
Oui, mais quand tu regardes même un TIE Bomber, par définition, oui, il est pas détaillé.
Non, non, mais là, je pense qu'on est vraiment, on est quelqu'un qui est justement placé un peu sur le côté. C'est pour ça qu'on est vraiment, on voit pas l'engin de face. Et je pense qu'il est très, pour moi, et je pense qu'il est symétrique. C'est juste qu'on n'est pas placé au bon endroit, comme si on était.
Oui, l'angle.
Voilà, c'est ça exactement. L'angle n'est pas situé en face.
Mmh, ouais. Ouais. Bon.
Et sinon, effectivement, je sais pas. Bon, peut-être que je suis en train de m'avancer un peu trop par rapport à ce que tu allais dire, Thomas, mais il y a certaines personnes qui pensent qu'il pourrait presque s'agir du fameux vaisseau qu'on voit atterrir justement dans le teaser qui comprend tous les storms, où on voit justement passerelle de cendres.
Ouais, que ce vaisseau, c'est le vaisseau du méchant. On voit des gardes royaux, généralement ils accompagnaient l'empereur, donc a priori ce serait le big méchant, quoi.
Pourquoi pas?
Possible.
Bon, voilà. A priori, on est encore sur du postulat, hein, de toute façon. Et tant mieux dans un sens, parce que si on nous donnait le scénario du film et qu'on le lisait là, il y aurait plus vraiment d'intérêt. Il faut aussi qu'on se garde un peu de surprise, mais que, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura les références. On connaîtra chacun des vaisseaux à l'avance, sans forcément les relier vraiment dans l'histoire, sans connaître l'histoire. Et on verra d'autant plus ces détails. J'ai envie de faire une métaphore. J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme quand tu vas voir un artiste que t'aimes bien. Mais tu connais pas son nouvel album, bah les chansons, tu les percutes moins que si t'as un peu écouté l'album et là tu le vois en concert et que tu vois en concert la différence entre la version live et la version studio.
C'est clair.
Est-ce que ma métaphore vous a marqué là ?
Ça va, ouais. Ça va.
Ça va. Je
peux pas à propos du vaisseau, je rajouterais juste que je pense, ça serait pas impossible pour moi que les ailes se s'allongent. Je veux dire, se mettent là, sont plutôt du côté hauteur. Mais je pense que ça m'étonnerait pas qu'elle se rabatte sur les côtés, enfin qu'elle se glisse un petit peu sur les côtés une fois dans l'espace, parce que je le vois pas voler comme ça. Je pense qu'elle doit se remonter pour permettre l'atterrissage et se servir du bas des ailes justement pour permettre de s'en servir comme d'un train d'atterrissage.
Bah écoute, on verra.
Un peu hâte de voir ça. Les couleurs d'après ma mémoire, c'est rouge et blanc, c'est ça?
Oui.
Oui, ouais. C'est ça.
Plutôt le gris habituel des anciens T-Fighters aussi. Apparemment, on se dirige beaucoup vers le rouge entre le vaisseau précédent, le fameux surnommé T-Fighter et ce nouveau T-Fighter, effectivement. On a beaucoup de rouge.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et pourtant, on n'en voit pas tellement pendant la bande-annonce. On a vu les nouveaux X-Wing qui étaient plutôt verts, si je me trompe pas.
Il y avait bleu et rouge aussi, mais les rouges étaient en fond, donc pas très visible. Ouais. Bien, alors je parlais en intro d'informations pour les cosplayers, donc les voici les informations. Donc c'est les descriptions des costumes de Han Solo, Leia et Chewbacca. Voilà, il y a eu apparemment différentes photos qui ont été aperçues lors d'un dîner sur ces costumes-là. Dans l'ensemble, la source du spoiler explique que les costumes sont des conceptions très simples et plutôt basique sur la coupe des vêtements, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des costumes très sophistiqués, donc on reste très proche du design des costumes de la trilogie classique. Donc Chewbacca, il reste Chewbacca, hein, donc pas de veste ou des pantalons, éventuellement un pantalon. Ceci dit, sa fourrure donc aurait plus de poils gris ou blancs, hein, pour confirmer son âge vieillissant, puisque normalement le film se passe 30 ans après.
Ah, est-ce qu'on peut dire un truc là-dessus?
Oh, vas-y, je t'écoute.
J'ai trouvé ça complètement con. Parce que, non, alors, franchement, soyons honnêtes, les Wookiees, ça vit 400 ans.
Ouais.
On est d'accord, hein, l'espérance, c'est 400 ou 800, je sais plus, Henri, dis-moi précisément. C'est 400 ou 800 ans, l'espérance de vie d'un Wookiee. Je crois que c'est 400 ans.
Là, tu me poses une colle.
Non. De mémoire, c'est 400 ans. Or, tu regardes entre l'épisode 3, où Chewbacca, il était à peu près comme on le voit là, et l'épisode 6, en 30 ans, il a pas bougé, il a pas pris un cheveu blanc. Et là, on va le voir 30 ans après, c'est-à-dire qu'en gros, on peut imaginer, tu sais, c'est comme toi, entre 20 et 22 ans, à moins que vraiment tu sois un mec super stressé, tu vas pas prendre des cheveux blancs d'un seul coup, quoi, tu vois. Et ben là, pour lui, l'équivalent, il se passe 2 ans en termes de vie humaine, en termes de vie wiki. Et ouais. Normalement, il est pas censé vieillir autant que ça. Il aurait une vie normale, tu vois, une vie humaine, une espérance de vie comme un humain, effectivement. Il prend des rides, il prend du bide, j'en sais rien, tu vois, comme la princesse Leia ou comme, tu vois. Mais là, c'est pas le cas, quoi. Le mec, il vit 400 ans, je pense pas qu'en 30 ans, c'est rien pour lui, quoi. Tu vois, à moins qu'il ait bouffé chez McDo tous les jours, je vois pas pourquoi il aurait pris un coup de vieux, quoi.
Je sais pas s'il y en a là-bas.
Mais après, faut pas oublier que désormais, toutes les informations que tu nous dis, Thomas, ne sont plus canons pour l'instant. On sait pas du tout, désormais, évidemment, c'est lui qui disait que les Wookiees vivaient aussi longtemps. Dans le canon officiel, pour l'instant, on ne sait absolument rien de ça.
Non, alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Dans le canon, c'est dans la continuité de l'histoire, mais les repères sont toujours là. Si tu regardes les planètes, c'est toujours les mêmes. Les races, elles ont toujours les mêmes caractéristiques, etc., etc. Donc a priori, pour moi, c'est juste l'histoire qui change, mais le cadre qui a été donné avant existe toujours.
Ouais, pour l'instant, on sait que ça, mais on ne sait pas ce qui peut changer encore. Donc moi, je dirais, pour moi, ça me gêne absolument pas que Chewbacca ait quelques poils blancs. Hein.
Combien même, tu vois, entre même quand on le voyait dans la saison Clone Wars, ça veut dire qu'ils ont c'est canon Clone Wars. Oui. Chewbacca, on le voit, non? Eh ben, on le voit. Donc du coup, a priori, dans les 30 ans qui se sont passés, pourquoi il a pas vieilli? Et puis que tout d'un coup là, il vieillit, quoi. Tu vois, il faut rester cohérent, quoi.
On a bien des gens qui prennent tout d'un coup en 2 ans, qui deviennent tout complètement chauves ou qui deviennent tout complètement et qui ont des cheveux complètement blancs.
Enfin, hein, s'ils nous font un wiki chauve, je te dis pas, quoi. Je te dis ça va être du joli, quoi. C'est la vanne dans Star Wars Rebels d'ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez l'épisode 1. Quand ils amènent le Zeb et puis qu'ils font bah quoi, vous avez jamais vu un Wookiee chauve qui se met à faire ouh. Allez, oui, voilà, c'était ma petite remarque cassante sur l'épisode 7.
Non mais tu as raison, parce qu'en fait, ceci dit, la source explique que les changements sont vraiment subtils, juste marquer un peu la différence et dire que les années sont passées sans qu'effectivement ils deviennent tout blancs. Hein. Et ensuite, donc la source expliquait que les changements se verront surtout sur la sacoche du Wookiee et peut-être une arme différente ou améliorée, on verra bien. Là, sur le personnage de Chewbacca, c'est vrai que les changements sont si on veut rester dans l'univers Star Wars, les changements sont à prendre très finement.
Vas-y, continue, j'aurais une autre question, mais vas-y, je vais pas te couper ton truc, Lance, et puis j'aurai une question après.
Non, mais j'allais passer à Han Solo, donc si t'as une remarque, vas-y.
Non, moi c'était sur la princesse Leia, donc je t'attends.
D'accord. Donc Han Solo, donc voilà, peu de détails sur le costume découvert par la source. Hein. Il porte un long manteau, comme on l'avait déjà vu dans les concept art précédemment. La chemise est similaire à celle portée dans le Retour du Jedi et les cheveux sont gris, bien entendu, comme son interprète. Je passe à Léa où Thomas va pouvoir se déchaîner, a priori. Donc dans la garde-robe de Léa, donc une détenue a été donc vue, qui devrait être présente dans le film. Donc dans une des séquences du film, elle porterait une combinaison bleu-grise sur laquelle elle ajustera une veste noire qui descend en dessous de sa taille, avec les manches retournées au niveau des poignets. Sous la veste, il y aurait un gilet qui apparaîtrait, un peu comme celui de Han Solo dans la trilogie classique. Et le costume de Léa comporte une ceinture noire large avec une boucle en argent typée années 80. Voilà, la source explique que le costume rappelle fortement le costume porté par les troupes du Tantive 4 lors de l'ouverture d'un nouvel espoir, donc l'épisode 4. Le costume en serait une version améliorée ou voire un grade supérieur. Et la source du spoiler finit en expliquant que Léa ressemble plus à une femme d'action qu'à un membre de la royauté ou de la République. Voilà. Henri, je te laisse la parole pour Henri.
Oui.
Ah non, c'est pas Henri, c'est Thomas, pardon, qui voulait.
Ah, mais Henri, si t'as quelque chose à dire, vas-y. Hein.
Ah non, moi, j'aime, effectivement, là, c'est difficile un peu de se faire une idée, mais effectivement, on avait vu un peu les costumes de Han Solo, et pour moi, c'est tout ce que je veux envie. Parce que c'est vrai que Léa, on n'en parle pas tellement, donc c'est un peu difficile un peu de savoir un peu vraiment dans quelle situation elle se trouve, comment va être, mais c'est vrai que Han Solo, par contre, effectivement, comme tu le disais, on avait vu un peu son costume dans d'anciens dessins conceptuels, et je trouve que ça lui va très très bien. Alors, j'espère que c'est celui qu'on va retrouver, parce que ça fait très contrebandier, un peu vieillissant, et j'aime beaucoup.
Ouais.
On est dans le personnage, on est clairement dans le personnage, là.
Mais c'est vrai que... Tu parlais sur Narshada et tout.
Mais c'est vrai que... C'est vrai que Léa, on en parlait pas.
Ouais, voilà. Mais c'est effectivement, je pense qu'ils ont dû effectivement choisir des costumes un peu qui les empêche de montrer peut-être trop les personnages, les acteurs vieillissants, je pense aussi. Je pense qu'ils ont dû prendre des trucs un peu larges, un peu plus sérieux, peut-être qui correspond plus à leur âge et permettent d'avoir quand même quelque chose de, à la fois d'intéressant et leur permettre à la fois aussi de bouger.
C'était d'ailleurs, Henri. C'était cette fameuse princesse Leia qui a priori, était, on va le dire hein, honnêtement, hein, les gars ils l'ont dit, hein, elle était trop grosse pour rejouer la princesse Leia.
Ouais.
Ils lui ont fait faire un régime, semblerait-il. C'est vrai que les dernières fois qu'on la voyait, elle était assez épaisse. Hein.
Juste une aparté, c'est exactement la même chose qui s'est passée sur l'épisode 4. Hein. Il l'a trouvée déjà trop grosse. Hein.
Ouais, mais là, je pense pas qu'il la mette en mode de...
Mais là, elle avait gagné quand même du poids.
Hein. Et là, non, mais il y a un moment, elle était vraiment... faut dire que le whisky, ça doit pas faire maigrir, quoi, mais il y avait un moment, elle était vraiment très, très, très grosse, et ils avaient dit que du coup, il la referait maigrir, et ce qui est marrant, alors peut-être que c'est moi qui suis mauvais, mais on voit plus de photos d'elle maintenant.
Bon, de toute façon, l'intérêt du film pour l'instant, les fans cherchaient surtout des photos de l'actrice sur le tournage, donc effectivement, dès qu'il y avait des gens, dès qu'il y avait des fans qui passaient à Londres, ils voyaient les acteurs prendre une photo pour voir à quoi elle ressemble.
Ouais, j'aimerais bien voir la tronche qu'elle a, quoi, du coup, tu vois, c'est pas pour, juste pour voir, du coup, pour m'imaginer, alors que même, tu vois, moi, ça me gêne pas, elle pourrait être grosse, bon, peut-être que ça changerait un peu la donne, mais ça me gênerait pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai envie de voir, voilà, à quoi elle va ressembler, physiquement, tu vois. Comme Luke, j'avais envie de voir le fait que, tu vois, il a pris un sacré coup de vieux, tu vois, à côté d'Harrison Ford. Harrison Ford, il a pas, enfin, tu vois, il a pris un sacré coup de vieux, lui, physiquement.
C'est-à-dire qu'Harrison Ford, on l'a vu régulièrement dans sa carrière. Ouais. Donc,
c'est peut-être ça qui joue.
On n'a pas fait attention à son vieillissement. Sauf que Mark Hamill, il y a eu un gros vide et on l'a pas vu à part quelques films, mais très rapidement. Donc le choc est plus violent.
Peut-être que c'est ça. Et il y a aussi, j'ai envie de dire, il y a aussi le fait que bon, pour causer avec des nanas, apparemment, C'est tu vois, c'est un peu comme celui qui jouait James Bond là,
Sean Connery,
voilà. Tu sais, elles te disent, ah ouais, mais ça c'est le mec qui vieillit bien et tout, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Moi c'est ce que j'avais retenu de ça, et du coup voilà, ça me choquait moins. Elle, j'attendais de voir la Carrie Fisher, ce que ça allait donner. Du coup on la voit pas. Et l'autre chose, et du coup je vais le dire à la place d'Henri, si on était dans l'ancienne version UE, normalement elle serait pas trop en mode aventurière ou contrebandier, elle serait plutôt en mode diplomatique, quoi. Et je trouvais que, et j'espère qu'ils vont quand même le garder dans l'épisode 7, c'est-à-dire ce côté, ils ont chacun leur domaine, tu vois, Luke c'est le Jedi, Anne c'est le contrebandier un peu foufou, et elle c'était la diplomatie, tu vois, ils avaient chacun leur truc, que si Leia n'est plus que l'ombre d'Anne Solo, eh ben elle perd sa personnalité, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais, mais je pense que tu vas répondre à cette question dans la news suivante que tu vas faire sur les hâtes. Dans The Force Awakens, où justement Léa apparaît dans un costume un peu plus ambassadeur politicienne apparemment.
Ouais, d'accord. Donc belle transition. la rumeur donc qui est sortie, celle-là elle est très très fraîche d'ailleurs. Hein. C'était qu'en gros il va y avoir des Hutts dans le réveil de la Force. Et puis la remarque qui est là, c'est que les Hutts, surtout ce qui est intéressant, parce que soyons honnêtes, dans l'épisode 4. Quand on voit, même dans l'épisode 1, quand on voit, mais le pire c'est l'épisode 4, où tu te croirais, tu sais, même Game of Thrones, ils font des meilleurs effets spéciaux, tu sais. Le Hutt, tu vois vraiment qu'il est rajouté, mais il est super mal fait, et tu dirais presque un autre Hutt que Jabba le Hutt.
Oui, oui, mais
tellement c'est mauvais, quoi.
Non, mais, oui, mais c'est parce qu'il est plus jeune.
Ah, c'est ça! Ils ont voulu le faire vieillissant dans...
Non, mais c'est l'explication que George Lucas avait donnée, où les techniciens des effets spéciaux, je me souviens plus. Et voilà, c'était histoire d'excuser un petit peu le fait que, d'accord, effectivement, il paraissait plus jeune.
Ah, c'est officiel, non, il a dit ça, Lucas.
Je crois que c'est lui qui l'a dit, hein.
Il s'est empâté dans le 6, en fait.
Mais je voudrais pas le confirmer. Ça peut être aussi, tu sais, les fans de Star Wars, hein, comme nous, ça dit beaucoup de choses, ouais. Et il y a des moments où on sait plus d'où vient la source.
C'est là où les mecs sont forts pour tout, ils se raccrochent à les branches en permanence, mais c'est parce que les mecs, ils ont construit le truc, ils ont pensé à tout, tu sais, et ouais. Même là, les poils de Chewbacca, ils vont nous justifier un truc, tu sais, c'est là où ils sont assez forts. Et, ouais. Donc, ce qui est super intéressant, c'est vraiment que là, les Hutts, ils les ont reconstruits, donc, enfin, moi, je sais pas vous, moi, pour moi, le meilleur Hutt dans les films, enfin, la meilleure version, c'est quand même la version du 6, où il est construit en marionnette. Oui. Et c'est ça qui fait tout le charme, et dans Star Wars, ce qui fait le charme, c'est en dehors, par exemple, de Jar Jar, bon, qui est pas aimé par les fans, ce qui fait que c'est fun, que c'est chouette, c'est les costumes, c'est les vrais, un peu comme là, l'espèce de canard, non? C'était quoi qu'on a vu? Une espèce d'oiseau, là, qu'on a vu dans la vidéo avec Gigi.
Ah oui, le genre de marchand de volaille.
Voilà, le marchand de volaille, ah ouais. Voilà, qui est construit et qui est fait en réalité, ça donne un aspect beaucoup plus vrai que ces personnages qui sont en synthèse. Je trouve que c'est tellement énorme. Et d'ailleurs, tiens, en transition avec le énorme, c'est qu'en plus, ils ont construit 4 ou 5 huttes avec les mêmes techniques qu'à l'époque dans Le Retour du Jedi. Alors, ça suppose peut-être qu'ils seront moins mobiles, qu'ils vont certainement être un peu en mode sédentaire comme Jabba dans le 6.
Ouais.
Ou pas, peut-être qu'ils ont trouvé des nouvelles choses et ils les ont construits grandeur nature. Donc ça veut dire qu'ils vont pas être là juste, à mon avis, enfin, un souci de rentabilité, ils vont pas être là juste 5 minutes pour dire, bah voilà, ils sont en fond, parce qu'il y a des personnages qui étaient faits juste pour être en fond de, comment dire, en déco, quoi, dans les secondes plans, quoi. Et, donc ça veut dire déjà qu'ils vont les utiliser pas mal dans le film, et moi, enfin, je sais pas vous, moi j'adore les Hutts. Quand on a fait la répartition, pour ça, moi j'ai dit, ouais, je veux absolument faire les Hutts, je trouve ça génial. Et en plus, ça veut dire qu'il y a eu aussi des rumeurs qui diraient que les Hutts, ils seraient réutilisés dans différents films.
Oui.
Et peut-être dans les spin-offs, parce qu'ils expliquaient qu'ils allaient peut-être lier des personnages avec la série télé, avec les spin-offs, tout ça. Et comme le Hutt, si on reprend l'espérance de vie, il y a que les humains qui claquent vite, d'ailleurs, dans Star Wars.
Oui, oui.
Les Hutts ont aussi une très bonne espérance de vie. On pourrait imaginer qu'ils seraient dans des spin-offs avant, qu'on les reverrait là, qu'on pourrait peut-être voir la guerre avec avec Jabba par exemple, parce que on sait. Alors tu vas, Henri va me dire oui, mais c'était avant. Mais on n'empêche qu'on puisse quand même sur l'existant et on sait quand même que les Hutts, bah ils aiment bien se triquer entre eux, qu'ils se font la guéguerre, voilà pour leurs espèces de commerce un peu frauduleux. Et ça, ce serait vachement intéressant de voir une guerre entre les Hutts. On en a vu pas mal dans l'UE jusqu'à maintenant. Et ça, ce serait vraiment bon, quoi. Donc moi, ça me plairait.
Et tu as raison.
Esquisse, hein, effectivement. Ouais, vas-y, tu voulais dire.
Non, je disais, tu as raison. Le fait d'en construire 4-5 pourrait être un coût financier énorme. Mais c'est vrai que là, on est sur une nouvelle trilogie, des spin-offs, et puis donc ils vont être clairement réutilisés. Oui, ils vont être rentabilisés.
Par contre, ce qui m'étonne un peu, c'est que s'ils ont vraiment construit autant de Hutts, ça m'étonne qu'on ait vraiment rien vu durant le tournage, parce que c'est vraiment plutôt des choses très énormes à transporter, donc je me serais attendu à avoir quelque chose quand même depuis le temps. Bon, c'est sûrement vrai, mais j'aurais voulu qu'on ait un aperçu depuis le temps, ça, vu qu'on a quand même vu l'énorme cochon qui a ensuite été déplacé à Abu Dhabi. Ça m'étonne qu'ils aient réussi à cacher l'existence de cinq...
L'énorme cochon.
Oui, c'est l'énorme créature qu'on voyait.
Ça, c'est parmi les premières photos qu'on a reçues.
Celui qui est aussi avec le faucon et l'X-Wing.
C'est pas le cochon globe?
Je sais pas.
Bah, je vois pas.
Ah, vous avez pas regardé? Ah ouais, mais vous avez voulu regarder en VO, vous. Star Wars Rebels avec Lando, là.
Ouais, ouais, ouais.
Le cochon qui gonfle.
Ah oui.
Ah non, pas ça.
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. C'est bon, si, ça.
C'est pas ça, non.
Voilà, une petite transition, j'ai trouvé ça énorme. Vraiment, j'étais mort de rire, quoi.
Donc ensuite il y avait une esquisse,
une esquisse donc qui montrerait en fait Leia debout entourée de ces fameux 4 ou 5 Hutts construits en vrai, donc avec une vraie Leia aussi. Elle porterait une robe marron dans un style ambassadeur politicienne, donc ça ce serait le côté qui rassure. Et j'aimerais bien que voilà qu'on le maintienne. Et elle est accompagnée de deux soldats dans un design entre les gardes de Naboo et les soldats rebelles du début d'un nouvel espoir. On pourrait imaginer avec un bel espoir de garder quand même l'existant en partie de l'UE qu'il s'agisse de soldats de la Nouvelle République.
Oui.
Et Leia ne semble pas en captivité, donc plutôt en réunion diplomatique. Donc ça veut dire que voilà, elle est là pour négocier. Et je trouve que c'est aussi, ça fait aussi comme Star Wars, c'est aussi politique. Je trouve que c'est important qu'il y ait une négociation, qu'on essaye de montrer qu'on résout pas tout non plus par des coups de sabre laser dans la gueule, quoi. Qu'il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. Et je trouve que c'est important, ne serait-ce que pour les gamins qui vont regarder ça, de voir que on peut gérer les choses autrement qu'en se mettant sur la gueule. Même si au final, ce qui est sympa, c'est d'avoir un combat de sabre laser. Il y a quand même d'autres moyens.
Ouais. Je me dis que ça peut être aussi intéressant parce que, comme Leia a quand même tué Jabba, je me demande si une réunion ne pourrait pas aussi causer certains conflits.
Sauf parce que Jabba, les autres entre Hutts puissants, ils peuvent pas se blairer. Donc au contraire, peut-être que que Leia allait étrangler le gros Jabba, peut-être que les autres ça les arrange un peu, quoi.
Alors je pense qu'il y a à la fois peut-être qu'ils se réjouissent, mais je pense aussi qu'il y a une sorte d'affront comme qu'elle ait tué un de leurs confrères. Je pense que ça existe souvent, mais même on n'est pas obligé d'aimer quelqu'un pour ne pas vouloir le venger, ou que ça cause pas des problèmes politiques.
Et alors du coup, l'autre question, elle était de quels sont les Hutts ils vont choisir, parce qu'ils pourraient très bien reprendre des Hutts de l'univers étendu, ou le fameux Hutt qui était accompagné de Jabba dans l'épisode 1, c'était Gardula, c'est ça?
Ouais. Gardula la Hutte. Ouais.
Gardula la Hutte, sachant que les Hutts, alors j'ai expliqué ça l'autre jour, juste pour la petite anecdote, hein, je vais pas vous raconter ma vie. L'autre jour, avec mes élèves, je devais les faire bosser sur la construction de l'intelligence collective. Alors c'est un grand concept, hein, par les outils de TIS. Et en gros, mes élèves, je les ai emmenés, je leur ai dit, bah vous voyez, il y a plein d'informations. Je dis par exemple, je dis allez, je prends au hasard, et je les fais genre le gars qui prenait ça au hasard. Je dis par exemple, tiens, sur Star Wars, il y a énormément de romans, énormément de choses qui se font, de comics, machin. Puis je dis, pour savoir, il y a tellement de choses à savoir qu'il faut mutualiser. Et je dis, tiens, je vais vous donner des outils, par exemple, pour trouver. Je les ai emmenés donc sur les forums de Star Wars. Je leur ai montré vite fait en vidéoprojecteur. Après, j'étais sur le Wikia Star Wars et j'ai pris les Hutts en leur disant, vous voyez, les Hutts sont hermaphrodites, ils peuvent se transformer, ils peuvent jouer soit l'homme, soit la femme. Donc mes gamins étaient morts de rire. Et à un moment, les détails étaient tellement énormes que les gamins vont dire, mais monsieur, vous seriez pas un peu geek de Star Wars? Du coup, les mecs sont cramés. Et maintenant, ils se foutent de ma gueule tout le temps en cours là-dessus. Et du coup, en plus, je suis parti sur les Hutts et je trouve que du coup, le côté Gardula, finalement, qui est peut-être qu'elle sera redevenue homme du coup entre temps. Le côté transformiste des Hutt est assez rigolo en plus. Et d'ailleurs, on ne sait pas si l'autre Hutt qu'on a vu, parce que pour l'instant on en a vu que trois finalement. Non, il y en a plus parce qu'on a avec les clones noirs, on en a d'autres. Notamment, il y a le bébé de Jabba. Comment il s'appelle déjà?
Rota,
voilà. Putain, t'es bon Henri. le petit Rota, on ne sait même pas si c'est pas Jabba qui l'a pas accouché. Il aurait pu se mettre en mode nana et puis sortir son Hutt quoi.
Ah, ça devient glauque hein, quand même. Hein.
Non mais ils vont pas faire Hutt X, reste sur toi. Hein.
La parodie,
ouais, voilà, c'est ça.
En tout cas, pour rebondir un peu sur cette histoire de Leia, à fois, je me dis que faudrait vraiment voir à quel point ils vont montrer les Hutt, est-ce que ce sera juste une scène rapide ou pas, parce que je me dis, si en plus, avec tout ce qui se passe déjà apparemment dans le film, rajouter une histoire politique entre Leia et les Hutt, je me demande si on va, est-ce que ça pourrait, ça, peut-être qu'au final, on va apprendre que ça, qu'il s'agit là de scènes coupées, un peu comme on avait la fameuse pétition des 10 000 qui a disparu de l'épisode 3 parce qu'ils ont remarqué que ça faisait vraiment trop long et trop. Alors peut-être que ça aussi, ça va peut-être disparaître en disant.
Moi j'espère sincèrement qu'on va les avoir.
On a peut-être pas besoin d'une intrigue supplémentaire qui peut alourdir le film.
Ah non, j'espère sincèrement qu'on va les avoir.
Parce qu'effectivement, on sait pas vraiment. C'est vrai qu'ils les ont dit qu'ils les ont construits, c'est vrai. Bon, d'un autre côté, donc c'est pour les montrer. Au pire, on verra ces scènes dans les scènes coupées. Mais si ça avait été seulement un dessin conceptuel, faut quelquefois se dire que c'est pas parce qu'il y a un dessin conceptuel, même si on a la description et peut-être qu'effectivement on peut en avoir aussi l'image, rien ne dit que ça, au final, ça a été réalisé pour le film.
Oui.
Bon, c'est vrai que là, de ce côté-là, s'ils ont vraiment construit les huttes, il y a un peu plus de chance quand même.
Ça reste à confirmer, effectivement. Bien. Ensuite, donc, un peu plus de détails et des détails importants sur les affiliations de chaque personnage. Donc, on sait que maintenant, Rey et Luke donc, se cacheraient. Alors ça, on rentre vraiment dans des parmi les spoilers importants pour l'histoire. Donc on sait que Rey et Luke se cacheraient donc exactement pour les mêmes raisons et donc partageraient une mission commune. Rey, donc joué par Daisy Ridley, donc serait bien la fille de Léa et Han Solo, qui aurait elle de son côté une mission de cacher et de protéger un sabre laser. On en a déjà entendu parler. Hein. C'est toi qui en parlais, Henri, dans la première news. Donc un sabre laser qui serait un artefact qui permettrait d'ouvrir une tombe Sith. Dans la précédente rumeur, donc BB-8, je crois qu'on en avait parlé au dernier Star Wars en direct spoiler. BB-8 en fait cacherait un sabre laser. Il était question que BB-8 ait un compartiment pour cacher un sabre laser en lui. Donc ça pourrait rentrer aussi. Ouais. Donc c'est quelque chose qui se confirme, qui s'emboîte bien, on va dire. Et il semble donc que ça confirme toutes ces informations. Les précédentes rumeurs aussi expliquaient qu'il y aurait un conflit entre Rey et Han Solo. Bah du coup ça se comprend mieux, hein, puisque si Rey et Han Solo, Han Solo est le père de Rey, donc on comprend mieux un petit peu le conflit, puisqu'il pourrait être extrêmement réticent à la mission que sa fille est en train de faire. Et une autre rumeur explique également que Rey et Poe Dameron commencerait une histoire d'amour, et qu'évidemment Han Solo, connaissant le caractère du personnage, ne souhaiterait pas non plus cette relation. Rey, comme tu disais Henri, donc au départ, donc serait un pseudonyme, et puis donc afin de cacher son affiliation avec son père et puis surtout sa famille, Rey donc serait également réticente à devenir un Jedi et découvrirait qu'en fait son mentor, et là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure Thomas, sur le personnage de Max von Sydow, qui serait donc avec elle, qui serait en fait un genre de mentor, et en fait elle découvrirait que ça serait un peu un ange gardien qui aurait été mis là afin de la protéger, la surveiller. Alors par qui, pour l'instant, on ne sait pas. Sur la mission commune, donc avec Luke, lui de son côté, et alors là ça rejoint et ça s'emboîte vraiment bien avec ce qu'on sait déjà, Luke aurait la mission lui de protéger cette ancienne tombe Sith qui du coup le tourmenterait. Donc ça serait cette fameuse rumeur où il serait dans un château complètement tourmenté, à moitié fou, qu'il serait clandestin, il serait voilà, ça comprendrait mieux toutes les descriptions qu'on a eues auparavant, ces descriptions de personnages complètement rongés par la force, et en fait, du coup, là, ça serait vraiment rongé par le côté obscur, puisqu'il est en train de surveiller cette tombe. Quant au rôle de Kylo Ren, bah, lui, effectivement, ça serait de trouver le sabre laser artefact, de se rendre au temple Sith, et puis bah, d'ouvrir ce tombeau ancestral. Ça fait quand même pas mal d'informations qui se regroupent, par rapport à ce qu'on sait déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Pour l'instant, c'est... Bon, après, peut-être que les mecs, ils s'amusent aussi à... C'est pas impossible aussi qu'ils s'amusent des fois peut-être à nous emmener sur des fausses pistes, hein.
Oui, bien sûr, oui.
C'est pas faux, mais j'y crois pas trop, parce que depuis le temps qu'on a eu des informations de ces sites internet dans desquels on traduit ces fameuses rumeurs, on a quand même pas mal d'informations apparemment vérifiées, quand même. On a vu BB-8 avant qu'il apparaît dans la bande-annonce, on avait eu Kylo Ren avant qu'il apparaît dans la bande-annonce, on savait à quoi il ressemblait, donc j'y crois pas trop à ce qui nous amène vraiment en pâture, parce que ça serait un peu étonnant maintenant désormais avec tout ce qui s'est un peu révélé de leur part, ça m'étonnerait, mais c'est sûr qu'il y a vraiment des bonnes choses, et après il faudra vraiment voir, comme je le disais, c'est vraiment des pièces de puzzle qu'on commence doucement à assembler, et je pense que ça m'étonne d'ailleurs que personne n'ait encore construit un scénario approximatif à partir de tout ça d'ailleurs.
C'est vrai, c'est vrai.
Depuis le temps, je me serais attendu à ce que quelqu'un ait regroupé un peu tout ça et mis dans un ordre correct et réaliste.
Ça serait amusant peut-être de le faire pour effectivement s'apercevoir que les choses s'emboîtent pas finalement si bien que ça. Et de voir les défauts de l'histoire qui se dessine.
Mais ça m'étonnerait pas effectivement. Depuis le début, je pense qu'il cache une théorie qui en fait n'est pas valide, parce que je me disais que Rey et Finn, ils ont tous les deux ils n'ont pas de nom de famille, donc je disais peut-être que même Finn avait été un nom caché, donc mais effectivement je me dis après qu'effectivement même Poe Dameron on dit que on non bon non
ouais.
Pas grave.
ça fait beaucoup donc je finirai juste sur le temple Sith. En fait donc ce temple cacherait donc une tombe ancestrale d'un très très vieux représentant Sith. Alors moi j'avais mis dans mes notes Darth Bane, hein, pourquoi pas, mais comme je ne sais pas si l'univers canon pas canon ce qu'il est ou ce qu'il n'est plus, donc
Darth Bane il apparaît vraiment, on le voit même dans The Clone Wars. Dans les Lost Mission, là, les derniers épisodes de la saison 6, donc pourquoi pas. Mais après, il y a eu tellement de différences qu'ils vont vraiment réutiliser ce site-là exactement, si c'est bien ça. Ça, je suis moins sûr. Mais après, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs il y a très très longtemps, comme quoi les fameuses missions, cette fameuse saison 6 de The Clone Wars allait peut-être donner des pistes par rapport à l'épisode 7. Donc effectivement, pourquoi pas Darth Bane.
Ça serait amusant. Depuis le temps qu'on en parle.
Et puis Dark Ben, lui, les canons, hein, pour le coup.
Bah oui.
Parce que c'est l'histoire de George Lucas qu'il avait posé à la base. Donc, Corpichine, quand il a fait son truc, de mémoire, il s'est inspiré des notes de Lucas, quoi.
Oui. D'accord. C'est ça, oui. Bon, il a un peu brodé, c'est juste.
Donc, je revends pas ma trilogie de Dark Ben. Mais je revends tout ce qui est pas canon. J'ai revendu plus de la moitié de mes comics et plus de la moitié de mes... Les seuls que je garde, pour l'instant, c'est ceux qui sont... je garde les KOTOR, la Légende des Jedi et les Legacy, parce qu'ils sont bien avant, bien après, et je me dis qu'ils peuvent encore raccorder tant qu'ils empiètent pas trop.
Fais ton deuil, quoi. Fais ton deuil.
Ensuite, toujours dans ce flot de rumeurs et d'informations, donc on avait aussi un peu plus de détails sur l'acteur Domhnall Gleeson, qui serait donc, quant à lui... un commandant de l'Empire, donc responsable de l'envoi des Stormtroopers chromés contre Finn. Et Gleeson pourrait jouer en fait sur les deux tableaux, pourrait être un agent double entre l'Empire et la Rébellion. Et il se donnerait l'objectif de désarmer les deux camps en détruisant donc les deux super-armes dont Henry vous parlera ensuite. Donc c'est pareil. Donc là on est sur quelque chose d'une autre trame parallèle peut-être. Si elle s'avère être exacte. Ensuite,
par contre, oui, pour moi, il a jamais. Pour moi, c'est pas un agent double. Hein. Pour moi, d'après l'information d'origine, il a vraiment quitté la rébellion parce qu'il aimait pas justement les personnes qui étaient à la tête de l'organisation.
D'accord.
Donc pour moi, c'est juste que il a peut-être que Peut-être qu'il a quand même pas envie qu'il ait une deuxième super arme du côté de l'Empire, mais pour moi c'est pas un agent double du tout. Pour moi c'est vraiment un impérial confirmé maintenant.
D'accord.
D'après ce que j'ai compris.
Oui, ben moi j'avais, c'est vrai que j'avais cette news d'agent double, mais c'est vrai que ce personnage-là, interprété par Domhnall Gleeson, on en apprend un peu plus aussi. Alors les informations se percutent un peu plus. En revanche, quatre sources différentes donneraient le personnage de Domhnall Gleeson. Il pourrait être le fils de Luke. Il y a quatre sources différentes qui attestent cette information. Après, voilà, c'est toujours, on se demande toujours si il y a un fils, une sœur, voilà.
J'espère qu'il y aura... Non, parce que du coup, sinon, s'il n'y a pas de fils Skywalker, faut que je revende mes Legacy, parce que techniquement,
c'est quoi. Voilà. Il y a aussi le... Après, faut voir si c'est vrai, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent que des Ewoks, oui. Enfin, le Kira ou Rey, enfin, on va dire Rey, soit la fille de Han et Leia, que Domhnall Gleeson soit le fils de Luke. Après, est-ce que c'est vraiment... Si... Bon, là, c'est vrai que les sources tendent à le confirmer, mais... Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de souhait de fans, en fait, le fait qu'ils ont vécu avec Jacen, Jenna et Ben Skywalker, est-ce qu'ils ne voudraient pas justement que ça se réalise?
Non, puis rappelons-nous quand même, à la base, enfin Lucas, avant qu'il redise ce qu'il avait dit, il disait que Star Wars, c'était l'histoire de Luke Skywalker. Puis après, il a dit non, c'est l'histoire de Vador, en fait, puisque de Anakin Skywalker. Mais puis après, il m'a maintenant, c'était non, c'est l'histoire des Skywalker. Alors après, si c'est l'histoire de la galaxie entière, non, je peux qu'il... Le fil conducteur, pour moi, ça reste quand même la famille Skywalker. Et si on vire la famille Skywalker, ben, tu vois, on renie un peu le truc, quoi.
Peut-être qu'on va apprendre que, en fait, c'est Rey qui est en fait la fille de Luke.
Ouais, possible, ouais.
Parce qu'en fait, là, tout d'un coup, j'y pense, ça pourrait être aussi un peu, ça pourrait correspondre au fait que Rey est d'un côté de la galaxie avec le sabre laser et Luke de l'autre côté pour protéger la tombe. Donc, ça serait une affaire de famille.
Ouais,
donc là, on reviendrait du fait que ça raconte l'histoire des Skywalker.
Bah, ce qui est intéressant, c'est que Rey, donc ayant du sang forcément de sa mère, donc de Leia, aurait donc des proportions à devenir Jedi. Et puis, si le personnage interprété par Domhnall Gleeson est le fils de Luke, qui aurait aussi un petit peu des proportions à devenir Jedi. Tous les deux se retrouvent face à face, ça peut être aussi intéressant dans une histoire, dans un script. Hein.
Effectivement.
Ouais. Maintenant, c'est vrai que Mark Hamill récemment a aussi dit que la nouvelle trilogie c'était pas non plus les histoires des anciens personnages, donc de Luke, Léa et Han Solo, mais que c'était aussi la nouvelle génération.
Bon, ça, donc, c'est sûr. C'est pour ça ouais. Que la promotion se consacre uniquement à eux. D'ailleurs, rien que dans la première bande-annonce, hein, même la seconde bande-annonce, il y en avait des rumeurs qui disaient qu'on verrait enfin les vieux, mais les anciens personnages, mais qu'après, quelqu'un avait dit, je ne sais plus à quelle occasion, qu'on verrait peut-être pas les anciens, pas avant quasiment au dernier moment. Peut-être que toutes les promotions des films seraient consacrées à la nouvelle génération.
Mais c'est vrai que, alors moi j'avais entendu cette fameuse rumeur qui disait qu'effectivement, ils avaient mis que les nouveaux parce qu'ils voulaient avoir un visage frais vis-à-vis des jeunes, mais qu'après il y aurait quand même cette deuxième bande-annonce où là il y aurait que les vieux pour faire plaisir aussi aux vieux.
Ouais, ouais.
Merde, on est chez les vieux nous.
Je crois. je continue sur le personnage interprété par Gwendolyn Christie, donc qui serait bien un soldat de choc hein, de l'Empire, habillé donc de l'armure chromée noire avec une cape rouge. Donc elle utiliserait un sabre laser. Il détaille un petit peu son caractère, donc elle serait arrogante, humiliante et tue donc sans discrimination. Donc un personnage très sympathique avec au visage donc. Pas mal de cicatrices et puis une coupe de cheveux très militaire et aurait la capacité de se dissimuler et les sources expliquent que ça se passerait deux fois dans le film. Voilà. Et son personnage serait à la chasse de Finn. Ensuite, un peu plus de détails aussi sur le personnage de Finn. Un détail rigolo sur ce personnage-là, c'est qu'il aurait une scène où il tirerait avec avec un blaster et serait ridicule. Apparemment, il a pas l'air d'être doué, hein, ce personnage de Finn, hein, entre piloter un vaisseau et puis tirer au blaster, il a pas l'air d'être très doué. Et donc, en fait, il serait ridicule en tirant au blaster et il y a une plaisanterie sur l'inaptitude des Stormtroopers à viser correctement dans la trilogie classique. On en apprend donc également que le personnage de Finn aurait eu sa famille assassinée par l'Empire et recrutée de force avec un de ses amis. Et celui-ci serait tué lors de la séquence d'ouverture du film. Finn serait totalement pacifiste et ne souhaiterait pas se venger, mais serait prêt à venger ou protéger ceux et celles qu'il aime. Ensuite, le personnage, et pour finir pour moi, le personnage de Max von Sydow, donc serait un ancien vétéran de l'Alliance Rebelle, donc qui aurait cette couverture d'antiquaire. Et la rumeur nous promet un personnage célèbre de la trilogie classique. Alors après, c'est on peut extrapoler. Moi, j'ai mon idée, mais on en discutera après. Mais voilà. Et il révèle que le cristal du sabre laser cacherait et aurait en garde aurait cette capacité d'ouvrir le tombeau gardé par Luke dans la scène qu'on a vue précédemment. Voilà. Ça explique aussi cette scène. Est-ce que vous vous souvenez de ce concept art où on avait un alien avec un cristal? Ça peut être aussi une des briques qui relie un peu l'histoire. Voilà. Que pensez-vous un peu de tout ça entre Finn, Gwendolyn Christie? On en apprend un peu plus, mais pas plus que ça en fait.
On continue toujours à confirmer qu'il s'agit bien d'un chroniqueur commandant en charge de la poursuite de Finn. Donc ça. À force d'avoir des rumeurs qui se répètent, on finit par y croire. Donc pour moi, ça devient de plus en plus réel. Donc ça m'étonnerait pas du tout.
Ouais. Les détails sur la famille de Finn, on n'en sait pas plus. Ça serait des détails, c'est des anecdotes plutôt amusantes, mais ça donnerait rien en relief au personnage, à part qu'apparemment il serait plutôt pacifiste, mais bon.
Je fais confiance au canon pour nous sortir quelques bandes dessinées, quelques romans.
Voilà, c'est
pour
ça.
Pour raconter tout ça.
C'est ça. Puis Max von Sydow, donc on en sait un peu plus, donc entre son personnage. Ils promettent, donc c'est un vétéran de l'Alliance Rebelle, mais ils promettent qu'il y a un personnage célèbre de la trilogie classique. Moi j'avais pensé à Wedge. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais. Oui, non mais oui, ça pourrait. Moi j'aurais préféré Lando.
Lando.
D'autant plus qu'il vient. Bon. Attends, ils sont allés le chercher pour jouer dans Star Wars Rebels. Alors tant qu'à faire, une fois qu'il est là, tu vois. Je trouve que pour moi Lando est beaucoup plus représentatif de l'ancienne trilogie que Wedge. Wedge, vous avez accroché parce que vous avez lu les romans X-Wing, mais comme dirait Henry, la continuité n'est plus là. Ouais. L'UE n'existe plus, donc du coup, je trouve que Lando a beaucoup plus d'importance que Wedge Antilles. Je dirais même presque Nien Numb a plus d'importance que Wedge Antilles, tu vois.
Non, mais c'est sûr que Lando, ce serait le personnage plus logique à faire revenir. Alors tout le monde l'espérait d'ailleurs qu'il revienne.
Oui. Donc,
ça serait une bonne chose que ça soit le cas.
Bon, bah, entre espérer et puis voir la réalité, on espère pas mal de choses, hein, malheureusement. voilà pour cette news un peu plus bourrée de détails, mais qui finalement n'amène pas grand-chose pour moi. Enfin, à vous de nous en dire dans les commentaires de cette émission-là. Henri, alors toi, c'est des informations un peu plus importantes également. Pardon.
Effectivement, alors, ce qui provient de la même source qui nous dévoilait la présence des Hutts, nous l'avons la confirmation que la fameuse planète de neige, donc la fameuse planète de neige et qui comporte aussi une partie de forêt, comme on le voit, là, c'est la fameuse planète où on voit Kylo Ren allumer son sabre laser à trois lames, serait pas Hutt. Bon, ça, je pense que ça, ce n'est une surprise pour personne d'ailleurs.
Non, je crois que c'était réglé ça.
Dès qu'on a vu qu'il y avait des arbres, je pense que.
Ouais.
Je pense qu'on savait que ça pouvait pas être Hutt, et moi je m'attends pas à retrouver Hutt. Pour moi, effectivement, je pense qu'on peut retrouver Tatooine parce que je pense que c'est une planète qui est vraiment symbolique de Star Wars. On la voit dans quasiment tous les films.
Ouais.
Donc je me dis que c'est plus logique, mais Hutt, pour moi, non. Pour moi, Hutt, ça a été une planète complètement de glace, et là on voit que c'est vraiment plus léger. Est-ce que c'est peut-être simplement l'hiver sur une planète, hein? Ça peut.
Oui,
il y a des planètes qui ont des saisons comme partout, donc pourquoi pas.
L'hiver sur Hutt.
Les versions hot, oui.
Et cette nouvelle planète se serait appelée Rium. Donc R-Y-2-O-M-E. Et ça serait un nom d'ailleurs qui serait retrouvable sur plusieurs documents de production.
Donc c'est intéressant, ça veut dire que ça se confirme quand même.
Voilà. Puis là, oui, pardon.
Non, ce que je voulais dire, c'était juste qu'effectivement, par rapport à... On s'en doutait que c'était pas hot, parce qu'on a pas mal de concept art qui ont été décrits aussi, hein, un combat de sabre laser devant le Faucon Millennium qui se passe dans la neige, on a pas mal de choses, et clairement, c'est une planète où il neige.
C'est pas parce que éventuellement on verra Tatooine que toutes les planètes qu'on verra sera forcément, c'est pas parce qu'il y a une partie de forêt, ça sera Endor, c'est pas parce qu'il y a une partie.
Voilà.
Il y a d'autres planètes dans la galaxie quand même.
Oui.
C'est juste que Tatooine est vraiment symbolique parce que c'est le lieu de naissance de Skywalker, enfin, c'est le lieu de naissance d'Anakin, c'est là où Luke a vécu et tout ça, donc c'est aussi logique qu'on peut-être qu'on se retrouve.
Puis c'est un trou paumé de la galaxie, ils le disent assez souvent dans la trilogie classique. Et c'est effectivement un bon endroit pour se cacher, hein, si les rumeurs qui ont été dites lors de cette émission se justifient.
Effectivement. Alors ensuite, effectivement, on revient encore une fois que on a une nouvelle confirmation que Rey serait donc un pseudonyme, donc on va pas en reparler une troisième fois, donc ça serait un double nom, peut-être fait un peu comme un Padmé ou nommé Amidala, comme Ben est appelé Obi-Wan ou Dark Vador Anakin. Donc voilà. Ensuite, on aurait effectivement des personnes auraient parlé d'une présence d'une troisième Death Star, donc une étoile noire construite en secrète par les rebelles.
Pitié, et pour ce troisième quoi, je
ouais,
veux dire.
Oui, je pense que là, ça serait un peu énorme quand même qu'on revient toujours au même. Mais pourquoi pas? Parce qu'on a l'Empire a construit deux Death Stars, ils ont voulu les utiliser. Est-ce que la rébellion ne dirait pas on va utiliser les armes de l'Empire pour les retourner contre eux? Pour,
symboliquement pour ce... en plus, ce serait
voilà.
Bon.
Voilà, hein. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est sûr. Mais donc, combattre cette troisième étoile noire, l'Empire disposerait d'une planète arme qui serait située dans les confins de la galaxie et aurait la possibilité de détecter la Force et donc les Jedi. Et ainsi, il servirait de ça pour traquer les Jedi à travers la galaxie et les éradiquer. Bon, là, on se retrouve avec une nouvelle purge. On se retrouve avec encore une grosse planète arme, ça ferait quasiment deux Death Stars l'une contre l'autre, peut-être une planète un peu plus vivante, enfin un peu organique, donc on penserait à Zonamas et Code dans l'univers étendu.
Mm-hmm.
Donc je trouve que je sais pas d'où ils sortent leur source d'origine, mais je trouve que c'est vraiment là les parties un peu vraiment assez loufoques tout ça.
Ouais.
Là, c'est ce qui me
ça paraît gros quand même.
Croire, voilà.
Ouais, c'est gros hein, quand même.
Difficile à y croire.
Mm-hmm.
Ensuite, on finirait par un vaisseau spatial important, serait nommé Mirror. Et donc là, par contre, je me demande s'il ne reparlerait pas du fameux Star Destroyer dont je parlais un peu plus d'ailleurs au début, ce que j'ai traduit par maison miroir, donc c'est House of Mirrors.
Mm-hmm.
Donc ça serait, mais apparemment, ce vaisseau serait connecté à la étoile noire ou à la planète qui sert d'arme. Et donc, Leia devrait prendre la décision d'utiliser cette étoile noire pour détruire l'arme de l'Empire. Et donc, effectivement, pour conclure, il paraît que plusieurs personnes, dont des acteurs, penseraient que le film ne serait qu'une copie de Star Wars épisode 4, donc Un Nouvel Espoir, et qui resterait sur un terrain inconnu pour ne pas trop s'éloigner et pour peut-être convaincre les anciens fans d'aimer ce film-là, voilà, de rester de pas trop partir dans l'inconnu ou inventer des choses qui pourraient peut-être risquer de faire foirer le film.
Ça, je suis pas d'accord parce que rien que le sabre en forme de croix, dit l'inverse, quoi.
Bah ouais.
Voilà. Rien n'empêche d'avoir des nouveautés aussi par rapport. On peut avoir des trucs redites et avoir de la nouveauté d'un autre côté.
Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi un parallèle à faire avec ce que J.J. Abrams a fait avec Star Trek. Particulièrement dans le deuxième qu'il a fait, où en fait il inverse régulièrement des situations qui sont existantes dans des anciens films de Star Trek et il les reprend pour les inverser. Et là, j'ai l'impression qu'il fait pareil, quoi. Si la Death Star 3 existe bien dans le film, ça donne l'impression que on inverse, on dit que c'est les rebelles qui s'en servent. Donc ça peut être une partie qui serait véridique, qui pourrait se confirmer par rapport à ce qu'il a fait auparavant. Mais par contre, c'est vrai qu'une Death Star 3, ça me paraît un peu énorme quand même.
Après, je pense que D'un côté, peut-être qu'ils veulent pas trop s'aventurer dans les choses nouvelles, mais je pense que s'ils font vraiment une redite, je pense que ça va vraiment refroidir de nombreuses personnes, et c'est pour ça que ça m'étonne beaucoup.
Ouais.
C'est pour ça que toute cette partie-là, à part la partie du vaisseau, surnommé Miroir, ou alors la partie de la planète de neige n'est pas haute. Après, est-ce que le nom est réel? On peut pas le savoir. Mais là, je pense que après, est-ce que c'est des gens qui auraient pas dit, effectivement, ça peut pas être haute, donc on va juste leur sortir. Donc on va juste dire ça, puis on va sortir une autre planète, et puis que le reste,
Ouais, puis ça risque de bouger encore. Risque aussi de bouger, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer le nom, ils peuvent, voilà, c'est.
On sait très bien qu'il y a eu des noms que Lucas avait inventés lors de ses premiers scripts pour l'épisode 4 qui ne sont apparus que très bien longtemps après. Alors pourquoi pas aussi avoir mis des noms temporaires et.
Oui, c'est
de trouver un meilleur.
Oui, c'est comme Luke Starkiller.
C'est
le premier nom des Skywalker, et on aurait pu s'il avait fait le film à notre époque, on aurait eu il s'appelle Starkiller, on a vu des documents de production avec Starkiller dessus, et puis à la dernière seconde, on change.
On peut même aussi penser à l'épisode 6 qui devait s'appeler La Revanche des Jedi.
Tout à fait.
Et même que la promotion avait démarré avec ce titre-là, alors.
Après
je me dis, c'est même carrément, je me dis peut-être qu'ils veulent qu'on ait un, peut-être que la production veut avoir aussi un nom, parce qu'ils veulent peut-être pas chaque fois dire c'est la planète de glace avec des arbres. Donc c'est plus rapide de dire on va donner un nom provisoire, comme ça on saura de quoi on parle pendant le tournage.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est plus simple. Voilà. C'est un nom de code qui est plus simple à la conversation et dans les réunions de travail. Bien, vous avez d'autres remarques, non ?
Non, je pense que. D'accord. Pense que nous sommes... petite remarque qui pourrait peut-être avoir un lien, je sais pas. Bon, je viens de voir la dernière news, mais qui est pas vraiment en lien avec ça. Ce sera un spoiler Star Wars Rebels. On nous dit que a priori dans les saisons à venir, on va retrouver plein d'anciens persos. Serait confirmé. Ahsoka, Dark Vador, Palpatine et Han Solo dernièrement là. Ça vient de tomber.
Bien.
Donc c'est cool quoi. Je veux dire ça. Et peut-être qu'il y aura un lien avec le Spark of Rebellion et que en fait on nous montrerait comment ça fera un lien avec l'UE, enfin le Legends maintenant, qui expliquerait comment Chewbacca a eu sa dette de vie avec Han Solo. Donc voilà, ça pourrait être sympa. Moi j'aimerais bien en tout cas.
Ça montre encore que s'ils font vraiment ça, ça montre vraiment qu'ils veulent retourner. À une époque où il y a que la trilogie originale et rien d'autre.
Ouais.
Ils ont fait la série sur prélogie, ils font la série sur trilogie, et après ils font la série sur postlogie, c'est évident.
Non, mais je veux dire que maintenant, depuis qu'ils ont annoncé cette fameuse troisième trilogie, on a rien d'autre, on a l'impression d'avoir complètement oublié la prélogie. Je trouve que même si elle a été moins appréciée que ce qu'elle aurait dû être, c'est un peu dommage de quasiment l'oublier.
Ok. Ouais, ok. Dit comme ça me va mieux.
Ouais.
Mais par contre, moi j'attends qu'une chose là, c'est que Star Wars Rebels, pourtant j'adore, se termine et qu'on ait une série qui nous lie justement l'épisode 7 et l'épisode 6 et 7. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces putains de 30 années? Pour une fois qu'on n'a pas une période limitée où il se passe, parce que dans Clone Wars, putain, en 2 ans, il s'en est passé des trucs. Hein. Mais là, il se passe 30 ans, on n'a rien, on a que dalle, on a envie de savoir ce qui s'est passé pendant ces 30 ans.
Oh, c'est clair. C'est clair.
Mais d'un autre côté, si vraiment JJ a l'intention de mettre en avant la nouvelle génération, j'espère qu'il va vite s'éloigner. Peut-être que l'épisode 7 sera vraiment l'épisode de transition entre l'ancienne trilogie, justement, on aura vraiment une... Peut-être que jusqu'à la sortie de l'épisode 7, on va vraiment être dans une période trilogie, et que dès que l'épisode 7 sera fini, qu'on va enfin passer vraiment peut-être à une période où il n'y aura que la nouvelle génération, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont vraiment se lancer dans ces fameux nouveaux personnages, donc Rey, Finn est probablement le personnage joué ou alors ça sera Poe Dameron, ou alors le rôle de Domhnall Gleeson.
Moi j'aurais adoré des spin-offs, qu'un des spin-offs se passe justement entre le 6 et le 7 et nous raconte ce qui se passe autour du Big 3, sauf que le problème c'est que comme ils sont trop vieux, ça passera pas quoi, donc on est obligé de l'avoir en série télé ça, tu vois, parce que à cause de
en animation, ouais,
à cause de l'orage, ouais. Ou alors il faudra changer d'acteur. Ah, ça a piqué quand même quoi. Tu vois un mec qui a pas leur gueule. Non mais c'est lui, mais il a trop changé entre les deux trucs, mais après on a repris lui, mais ça passera pas, donc il faudra, on est obligé de l'avoir en série télé, donc allez-y quoi, finissez Rebels et puis dépêchez-vous quoi.
Qu'on ait la suite.
Tu vois, j'aurais même préféré avoir une série télé qui nous raconte ce qui se passe après le 6 et que on sait pas encore ce qui va arriver dans le 7, que la prochaine fois quand on va, une fois qu'on aura vu l'épisode 7, quand on aura la série qui lit les deux, eh ben finalement on aurait été spoilé quelque part puisqu'on saura très bien où ça nous mène tout ça.
Bon, écoute, on verra ça. Hein, ça
oui, non, on n'est pas là. Oui, pense... non, mais voilà, c'était la petite remarque série télé.
Ouais, oui. Je pense que
transition, tu dis vous avez des choses à dire. Bah, j'ai ça à dire.
Non, mais je pense que tu as raison. C'est Disney a quand même acheté à prix d'or cette licence, cette franchise, et donc je pense qu'ils vont la déployer sur tous les supports. Bien, merci, c'est tout pour cette émission. Nous remercions nos partenaires metinbox.net, siteclan.net et starwars-holonet.com. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions à l'adresse de starwars.direct, je répète, hein, puisque c'est nouveau, starwars.direct. Vous pourrez retrouver donc à cette adresse les émissions donc Star Wars en direct, donc l'émission principale de l'actualité générale de l'univers Star Wars, dont le dernier numéro a pour invité Patrice Giraud, donc l'homme derrière le Lucasfilm Magazine, pardon, les conventions Star Wars Réunion et encore sciencefictionarchive.com. Il y a également un Michel Van Porten qui est invité, qui parle de son calendrier geek. Donc je vous invite à aller l'écouter. Vous pouvez également y écouter Star Wars Rebelle, donc une émission dédiée à la série d'animation. Et puis évidemment, les autres émissions de Star Wars en direct, spoiler. Si vous ne voulez pas manquer une de nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte iTunes et à notre fil RSS pour les recevoir automatiquement. Pensez à voter pour nos émissions afin de nous aider à être diffusés auprès du plus grand nombre. Ça nous aiderait bien. Et pour finir, si vous avez des suggestions, des commentaires ou des réactions suite à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter sur... Et hop, attention, nouvelle adresse sur Star Wars at qu'est-ce que je dis, studio at starwars.direct, donc studio at starwars.direct, et vous pouvez également nous contacter via les comptes Facebook, Twitter de Star Wars en direct. Nous sommes également présents sur YouTube. Voilà, à propos des réseaux sociaux, Henri, où pouvons-nous te retrouver sur le web?
Alors, il y a toujours plusieurs solutions, donc ou bien sur Facebook à Henri Levental, ou alors sur Twitter à l'usager Dalsk, D-A-L-S-K, ou bien sur le site de cinéma que j'ai co-créé qui s'appelle Breaking News.
Merci. Et toi, Thomas?
Et ben moi, j'ai créé il n'y a pas longtemps un Facebook, même si j'étais contre à la base, et voilà, c'est le seul bout instant média sur lequel on peut me retrouver, quoi.
D'accord. Quoi, exactement?
C'est bah,
quoi,
Coulon, Thomas Coulon.
D'accord, ok. Le classique.
Classique.
Et ben, dans le classique, c'est également pour moi. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Hervé Quaral, tout simplement. Votre prochain rendez-vous sur Star Wars.direct sera avec l'émission numéro 99 de Star Wars en direct. Donc, l'émission généraliste et sans spoiler, elle vous sera présentée et vous sera préparée et présentée par Danny Pépin. Henri, tiens, un petit mot sur la centième de l'émission.
Oui, donc, effectivement, ouais. On approche à grands pas de la centième, donc on vous prépare quelque chose. Donc effectivement, s'il y a des anciens auditeurs qui nous écoutent encore, donc n'hésitez pas à nous laisser demain un email avec vos impressions, comment vous avez découvert l'émission, ou même carrément nous laisser un petit message audio que vous mettrez sur un service de partage en ligne. Donc comme ça, on pourrait diffuser tout ça. Donc on se dirige vers une très très bonne émission. Donc n'hésitez pas à nous envoyer plein de vos meilleurs moments, un peu tout, vos ressentis par rapport aux émissions et tout ça. Donc n'hésitez pas à faire sortir vos moments nostalgiques.
Bah oui, voilà. Vos souvenirs, voilà. Depuis 2001 quand même. Hein.
Voilà, donc, janvier 2001.
Elle va être longue cette émission.
Il y a des chances.
Bien, merci Thomas, merci Henri, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et donc je vous dis à très bientôt. Au revoir. We'll be right back.